au cœur de notre émission ce mercredi. Nous porterons un regard sur le remaniement opéré par Nicolas Sarkozy. Comment la majorité peut-elle rebondir? Comment PS et Verts peuvent-ils s'entendre pour 2012? Rendez-vous dans notre émission Les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, ce soir à 19h20. France Inter.
La différence.
15h04, là-bas si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Bonjour, vous désirez à votre tour radier Nicolas Sarkozy ainsi que son gouvernement? Tapez 1. Inscription sur les listes électorales. Tapez 2. N'oubliez pas de vous rendre dans votre bureau de vote le jour des présidentielles. Tapez 3. Choisissez le bon bulletin de vote, mettez-le dans l'enveloppe prévue à cet effet et glissez-le tout dans l'urne. Nous vous souhaitons une bonne journée et un avenir sans chiffres du chômage truqué. Bip!
Salut Daniel, salut les AMG. Petite piqûre de rappel, qui a écrit ces quelques lignes? Le Sarko-show est une arme de dissimulation massive, car celui qui ne cesse de prétendre vouloir être jugé sur ses résultats n'a pas son pareil pour masquer les piètres bilans de son action. Ceux d'un médiocre ministre de l'économie et des finances ou ceux d'un ministre de l'intérieur survolté n'est peu efficace. Les violences faites aux personnes n'auront cessé d'augmenter en dépit de ces communiqués triomphants. Mais l'échec de M. Sarkozy n'atteint que rarement notre héros, le plus souvent parce qu'il le noie dans le mouvement perpétuel. Chaque fois qu'il se trouve en difficulté ou se voit obligé de se justifier de son action, le candidat UMP se saisit d'un fait divers pour enfiler la combinaison qu'un Le Pen laisse parfois au vestiaire. Ça a été écrit en janvier 2007 par un monsieur Éric Besson. Voilà, c'est disponible sur Internet. Et ce monsieur, quelques mois après, devenait le ministre de monsieur Sarkozy. Alors, j'aimerais savoir, entre Guillon et Éric Besson, qui est le traître dans l'affaire? Pourquoi monsieur S s'excuse auprès de monsieur Éric Besson? Allez, salut.
Après la chronique de Stéphane Guillon sur Éric Besson, Radio France s'excuse. Devra-t-on bientôt dire, France Inter, la déférence?
Bonjour, juste un rappel à Jean-Luc Hesse et Philippe Val qui croient participer à un journal qui était rempli de caricatures abondantes, et notamment celle d'Éric Besson, de Nicolas Sarkozy et d'autres. Donc il me semble aussi qu'il y a eu des grosses bagarres concernant la caricature de Mahomet. La levée de bouclier ou la levée de parapluie de M. Jean-Luc Hesse est un petit peu étonnante dans la mesure où effectivement la caricature verbale est le pendant de la caricature dessinée. Bon, ceci étant, je ne sais pas si les termes employés concernant Éric Besson sont des caricatures, puisqu'en fait il a besoin de personne pour se caricaturer, hein, tant il est excessif, comique, et dans ce comique tragique, je dirais, de sa personnalité. Ça fait très 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 longtemps que je suis auditeur de France Inter. Espace de liberté, de diversité, de libre parole. Et j'ai l'impression qu'il y a des vieux relents, non plus de caricatures là, mais des vieux relents de censure qui se dessinent ici et là. Les hommes publics, s'ils veulent pas qu'on parle d'eux, eh ben, ils restent dans la vie privée. C'était Dominique de Savoie. Je suis très en colère parce que j'ai entendu aujourd'hui. Et je serais curieux de savoir ce qu'en pense Stéphane Guillon. Salut à tous.
Salut Daniel, Paul à Marseille. Bon ben moi je suis désolé, comparer Besson à un nazi, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Guillon est fou le camp là un petit peu, franchement. On peut critiquer la politique d'un gouvernement sans aller aussi loin. À mon avis, ce qui serait pas mal, c'est qu'ils se mettent à critiquer les 20% de Français, ses compatriotes, qui votent FN. À mon avis, il n'osera pas ça. Salut.
J'ai été pendant 20 ans directeur d'un organisme de formation et d'insertion, et à ce titre, j'ai participé, ça a été une des expériences les plus douloureuses de ma vie, à la formation des nouveaux embauchés de l'ANPE. J'ai souffert parce que j'ai rarement vu des jeunes et des moins jeunes, hommes et femmes, avoir des représentations sociales, des demandeurs d'emploi aussi caricaturales. Tous des feignants, on va les mettre au boulot, on va voir ce qu'on va voir. J'avais vraiment l'impression d'animer des séminaires de vendeurs de la grande distribution qui allaient gagner des parts de marché. Et le profil de recrutement et les tests de recrutement et la politique de recrutement, alors peut-être que ça a changé depuis que ça s'appelle maintenant Pôle emploi, mais pendant longtemps ça a été à la NPE d'embaucher des profils commerciaux qui allaient dans les entreprises pour placer ce produit entre guillemets invendable qui était le demandeur d'emploi. Et qu'en formation, alors je viens des sciences humaines, on avait ce type de jeunes gens, jeunes femmes, moi je redis, avec ce type de discours, on était quand même assez inquiets de l'avenir des demandeurs d'emploi qui allaient se retrouver face à eux.
Bonjour, ici Evelyne, je suis conseillère à Pôle emploi, je viens d'entendre votre émission aujourd'hui et je voulais juste donner une précision, la grosse prime que les conseillers reçoivent, elle a lieu une fois par an, la prime sur objectif, maximum dans les entre 450 ou même moins, et disons cette année sur Rhône-Alpes c'est à peu près le maximum, c'est 480 € brut, hein, parce que c'est sur la feuille de paye et donc il y a les taxes qui y sont appliquées. On est loin des primes des traders et d'autres personnes qui travaillent dans des banques, par exemple. Hein. Donc, il ne faut pas exagérer. Sinon, bah, je suis bien d'accord sur tout ce qui a été dit et même des choses pires, parce que il y a des situations dramatiques et des deux côtés. Voilà. Bon, eh bien, bonne continuation à tous.
Je suis en train d'écouter cette émission sur le chômage que je connais bien et dont je connais bien le contexte et les circonstances. Et il me revient en tête le palmarès Forbes des plus grandes fortunes du monde pour lequel on s'est enorgueilli du succès de notre homme d'affaires Bernard Arnault qui a bien progressé dans les scores en passant de 16,5 milliards de dollars de patrimoine a priori à 27,5 milliards de dollars. Alors je me suis amusé à faire le calcul comme ça pour voir combien ça faisait de SMIC, charge comprise, hein, en évaluant un SMIC à peu près à 2 000 €, ça en fait 5 500 000 en un an. Salut.
Eh ben voilà, c'est pas si triste, vous voyez que ça, ce qu'on entend dans ce répondeur de là-bas, si j'y suis au 01 56 40 37 37, on continue aujourd'hui. Merci pour tous ces messages, et notamment, évidemment, ceux venant des collaborateurs, des salariés, autres conseillers de Pôle emploi, c'est très précieux d'avoir vos témoignages et vos critiques. Je dois dire qu'on n'en a eu aucune de la part de ces collaborateurs. Collaborateurs en question. Donc, on ne doit pas être très très loin de la vérité. Et semble-t-il, en dessous de la vérité quant à ce qui se passe dans ces pôles emploi. C'est pas seulement, on l'a compris, un dysfonctionnement, un nouveau dispositif nouveau. Donc, face à un afflux de nouveaux chômeurs, il y a quelque chose de beaucoup plus profond et de ce qu'on peut appeler, voilà, politique, un choix politique. Et donc, dans un choix politique, eh bien, il y a un choix idéologique et aussi, et c'est tout ça qui transpire et qui remonte à la surface et qui explique ce que nous constatons, ce que Pascariello a constaté et va à nouveau constater aujourd'hui dans ce deuxième volet de l'avenir radié. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Se consoler avec la non-participation des abstentionnistes, transformant la déculottée de l'UMP en simple déception, manifeste bien une volonté de cacher une certaine photo de la France actuelle. La photo de la France inscrite sur les listes électorales nous donne, prise sous un faux angle, 54% à gauche, 36% à l'UMP et 8% au FN. Ceci en fonction de certains exprimés. Et oui, je rappelle que les exprimés nuls ou blancs ne sont pas des exprimés dans la Ve République. Le grand Charles devait avoir des problèmes avec la justesse des mots. Conclusion, les abstentionnistes n'ayant adhéré ni aux uns ni aux autres, la gauche peut dire à juste titre qu'elle a motivé 27% des inscrits, l'UMP 18% des inscrits et le FN a récolté 4% des inscrits assez régionales. Un acharné des bonnes magouilles de la Ve République peut-il nous prouver que tout ceci est faux ?
Salut à tous, c'est Pascal Dumont. Xavier Darcos, remaniement ministériel oblige, va perdre son travail. C'est bien ennuyeux pour lui. Et à ce titre, il serait intéressant que l'équipe de là-bas, si j'y suis, le suive à travers son inscription à Pôle emploi et puis son parcours de demandeur de travail. Ce serait pas mal, ça. Hein. Faites-nous un petit sujet là-dessus. Salut à tous et bonne journée.
Une heureuse nouvelle, un nouveau repère est né en Ille-et-Vilaine. À Servan-sur-Vilaine, à la Casac, en face les pompes à essence. Le premier rendez-vous a lieu le vendredi 26 mars. Nous y serons accueillis à partir de 20h par Régine. Nous pourrons parler de tout, mais pour la première fois, ce serait bien si on pouvait parler des modalités pour la suite. Fréquence, horaire, support vidéo ou pas, intervenant ou pas. Bref, servons-nous nous-mêmes en idée. À vendredi.
Ouais, Daniel, t'aurais pas un sujet sur la caisse des dépôts? Un truc, tu vois, pour un peu les déglinguer, quoi. Parce que ils sont derrière plein de petites affaires, là. Tu sais, Quick, ils ont, y a ça, il y a Nactixis, et puis surtout, bah, en ce moment, moi qui suis de Saint-Denis, il y a ICAD, là. ICAD, c'est une société immobilière qui sont, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Et en fait, ils veulent revendre les appartements des cités. Ils en ont 38 000 à vendre, et ils font tout pour les revendre aux gens, quoi. Et c'est des cités toutes pourries, quoi, et voilà, les gens, s'ils achètent ça, ils se feront carotter, quoi. Parce que leur appart, il prendra aucune valeur, et puis ils se retrouveront avec des dettes colossales, quoi. Mais le but du jeu, c'est déjà de se séparer du social à maximum. Voilà.
Bonjour Daniel, et bonjour à tous les auditeurs. C'est Franck de Montreuil. J'appelle pour réagir par rapport à l'émission sur le Pôle emploi. Qui m'a beaucoup parlé, puisque j'ai moi-même été confronté à un problème de radiation abusive, on va dire. En fait, j'ai été convoqué à une réunion le 3 février, et je m'y suis rendu malheureusement 10 minutes en retard, et la personne qui m'a accueilli, en fait, a déclaré, suite à ce retard, a dû déclarer à ses supérieurs hiérarchiques que je ne m'étais pas présenté à l'entretien. Alors, grosse négligence ou oubli volontaire, aujourd'hui en écoutant l'émission, bon ben, je me dis que voilà, c'est ça. J'avais peur de la théorie du complot, de me dire non, c'est juste une erreur, mais bon, voilà, l'émission m'a vraiment confirmé dans ce que je pensais. Voilà, mais c'était pour témoigner de l'émission d'hier. Merci, salut à tous, au revoir.
Je suis à Pôle emploi, je fais l'accueil, je fais l'accueil le matin, et vraiment je vois vraiment la misère, quoi. Je vois vraiment la misère tous les matins, quoi.
On a peur toujours de la boîte à lettres. On a peur, c'est un recommandé qui arrive à payer quelque chose qu'on a oublié. Vous savez, là maintenant on fait attention à tout. Hein.
J'ai vraiment le sentiment que les agents de Pôle emploi en arrivent à stigmatiser le demandeur d'emploi parce que on a un certain nombre d'objectifs à tenir et les radiations en font partie. Ben, le taux annoncé, c'était 500 000 radiations à l'année.
Oui, on va remettre les choses dans ce contexte. Nous, on a besoin de ce papier-là. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas ce papier-là?
Ils m'ont donné déjà...
Non. Mais pourquoi? Moi, je fais mon travail et je vous dis que ça, c'est pas bon.
Pour moi, aujourd'hui, le voleur, le fraudeur, c'est grave hein, ce que je dis. Hein, et c'est Pôle emploi qui la commet vis-à-vis d'un certain nombre de demandeurs d'emploi.
Après, c'est soit on respecte le code du Pôle emploi, ou soit on respecte le demandeur d'emploi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Pascariello. L'avenir radié.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, c'est pour une première inscription?
Oui, c'est par téléphone.
Ah
dans
bon?
La salle, oui, les inscriptions, c'est par téléphone depuis 2 ans. Vous avez 3 postes téléphoniques dans la salle, vous décrochez, il y a une boîte vocale qui vous explique la procédure, qui est très simple.
D'accord, et si j'ai une question, il n'y a pas une personne...
Une question sur quoi?
Bah, comme c'est la première fois,
je Oui, me non, dis... mais vous avez une boîte vocale qui vous guide vers un conseiller à l'emploi.
D'accord.
Numéro 2, c'est un conseiller à l'emploi qui vous inscrit.
Ah ben, merci. Au revoir. Alors, c'est vous, les TPF. Alors, décrocher 3949, Pôle emploi, votre service appuyé sur la touche étoile. Ben, ça marche pas, le téléphone. Excusez-moi. Peut-être que vous êtes libre, non? Ou pas, pour me renseigner?
Non, moi, je suis pas libre. Il faut voir avec l'accueil.
D'accord, parce que comme là, je voyais que vous étiez dans
oui,
votre bureau...
Non, moi, je fais pas l'accueil de là-haut. Je fais par téléphone ou par mail.
Ah, lui, il marche. 39, 49... Non, j'ai pas été inscrit. Alors, j'appuie sur la touche étoile. Oui, bonjour, excusez-moi, c'était pour des renseignements pour m'inscrire, savoir ce qu'il fallait que je fasse, en fait, comme démarche. Oui, j'ai travaillé. Non, c'est ma première inscription. Laurent. Barbara. Le 11-03-76. Française. Célibataire. D'accord. Et là, vous pouvez m'expliquer un peu la suite ou... Ah, d'accord, c'est pas possible d'en discuter au téléphone, alors. Bah, et alors, excusez-moi, j'ai un petit souci, parce que là, je suis dans une agence, et on me dit que je peux pas non plus en parler dans l'agence, alors je sais pas à qui je peux en parler, si je peux pas en parler par... Oh oui, non, mais c'était pour voir quelqu'un, vous voyez, la situation est pas super amusante, donc c'était au moins pour avoir quelqu'un de visu, quand on discutait normalement. D'accord, bah j'attends 15 jours, alors, dans l'attente. D'accord, mais prendre les informations par moi-même, ça veut dire aller sur Internet. D'accord, merci beaucoup, au revoir.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. En fait, j'ai le 39-49 pour une première inscription, mais je voulais savoir si c'était possible d'avoir plus d'explications. On m'a donné un rendez-vous, mais pour dans 15 jours.
Oui, mais vous êtes sûr que vous avez rendez-vous dans 15 jours? Je suis étonnée quand même.
Bah oui, on m'a dit dans 15 jours.
Ben, retéléphonez pour confirmer.
D'accord.
Vous demanderez, parce que ça me paraît étonnant. 15 jours, ça fait long, je trouve.
D'accord. Donc, je repars encore au téléphone.
Oui.
Merci.
Voilà.
On va recommencer au 39-49. Donc, oui, bonjour. Je me suis inscrite, je suis dans une agence en fait là. On m'a dit à l'accueil où je suis là à l'agence de vous rappeler du téléphone de l'agence. Ben, on m'a donné un rendez-vous pendant 15 jours. Ben, je sais pas, là, le monsieur à l'accueil il me disait que c'était un peu long 15 jours et que c'était pas normal et qu'il fallait que je vous rappelle. Ben oui, Barbara Laurent. Barbara, c'est mon prénom et mon nom de famille, c'est Laurent. Merci beaucoup. Hein.
Oui,
ils n'ont pas retrouvé mon dossier de première inscription au 39-49, donc ils m'ont dit d'attendre ma convocation chez moi.
Attendez, ça va en finir. Dites-moi.
On s'est vu il y a 5 minutes.
Oui.
Ben, vous avez la tête ailleurs.
Hein. Non, mais ça y est, j'y suis.
C'est que vous voyez tellement de monde.
Vous ne pas retrouvé?
Non.
Donnez-moi votre pièce d'identité. Votre nom, prénom, date de naissance.
Oui.
Je vais voir, parce que c'est Laurent, il y aura peut-être un paquet. Hein.
Ouais.
On verra, on va voir.
Oh, vous avez réussi à trouver,
bah
super.
Oui, vous êtes convoqué.
Je comprends rien, hein. On m'avait dit le 22 mars et là on me met le 17 mars. Heureusement que vous avez sorti la feuille parce que moi je serais arrivée le 22.
Oui, c'est le 22, alors attends, je vais capter parce que c'est quoi, c'est quoi, attends. C'est le 22 mars à 10h précise.
C'est inquiétant, vous êtes sûr que c'est pas le 17
mars?
Ah non,
mars, je suis certain.
D'accord, mais c'est sur le papier certain que vous me donnez, il y a 17 mars.
Hein. Oui, mais enfin, c'est pas le bon papier.
Vous devez vous présenter impérativement au plus tard le 17 mars.
Non, c'est le 22 mars.
Hein. D'accord.
D'accord, j'ai regardé à nouveau. Enfin, c'est bien ce que vous avez dit. C'est bien le 22 mars. Hein.
Bah, merci beaucoup.
De rien. Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Cet appel passé d'une ligne fixe ou d'une box vous sera facturé 11 centimes d'euros maximum. Si vous appelez depuis un mobile, cet appel sera décompté de votre forfait ou facturé au prix d'une communication normale. Connaissez déjà le
nombre du service. 6 millions, c'est le nombre de Françaises et de Français qui, en un an, l'an passé, ont eu affaire avec Pôle emploi. 6 millions, non pas les 2 ou 3 millions qui sont, dont les chiffres sont généralement annoncés, brandis, et sur lesquels on tire des conclusions, des perspectives, des indignations. Non, c'est 6 millions qui, au total, ont été confrontés au chômage, se sont trouvés dans un de ces bureaux ou en contact avec l'un de ces services. 6 millions. 6 millions ramenés à l'ensemble de la population, ben voilà, ça fait 10% de l'ensemble de la population et un pourcentage bien plus élevé encore de la population active. Ça fait 6 millions de personnes déstabilisées, humiliées, fragilisées et qui se posent des questions sur elles-mêmes et qui, à un moment ou à un autre, acceptent effectivement de dire « c'est peut-être bien de ma faute quand même ». Parce que c'est ça la pression, c'est ça la criminalisation. Criminalisation, je dis bien. Disons, pour être un peu plus nuancé, la stigmatisation. Punir les pauvres, c'était un titre d'un ouvrage du sociologue Loïc Vacan. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit que celui qui est frappé par le chômage considère qu'il est dans son tort. Et pour cela, eh ben, Pôle emploi est là. Et ce que je vous dis n'est pas agressif puisque ça vient des collaborateurs de Pôle emploi eux-mêmes à travers cet ouvrage qui vient de sortir, Confession d'une taupe à Pôle emploi, mais aussi à travers les témoignages que Pascal Pascariello nous a apporté, que vous allez entendre à nouveau aujourd'hui. Hannah Arendt dit que le totalitarisme, c'est quand l'homme devient superflu. Est-ce que c'est vraiment bien séant de faire cette comparaison, ce rapprochement, le totalitarisme, cette grande philosophe que fut Hannah Arendt? C'est possible. C'est bien possible que nous assistions impuissants ou peu puissants en tout cas à cette destruction lente et programmée et en grande partie voulue de notre société, de notre tissu social et donc par conséquent de notre pays. C'est notre préoccupation aujourd'hui jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, l'avenir radié.
Je ne me lave pas pour économiser l'eau. J'ai bouché la cheminée pour pas perdre la fumée. Je ne branche plus ni la LED ni la diaro. Quand mon téléphone, il a zéro unité. Je ne cuisine pas, je me chauffe au frigo. Rien de propre à manger dans ma très salle à manger. Je ne vais plus ni au cinéma ni au bistrot. Quand on fait le drôme, je ne peux plus m'abonner. Je n'ai plus un point, on a saisi mon auto. Il n'y a rien à gratter, sur ma carte à gratter. J'ai pas de chou, de joujou, de hibou. Je manque de tout, je manque de tout. Je manque de tout, je manque de tout. Je n'ai même pas le slip nécessaire pour penser à l'amour, alors je suis en guerre. Je coupe les œufs en quatre en pensant à Staline. De quelque côté que je me tourne, j'ai que mon cul derrière moi. Je fume les pissenlits et par mes racines. Et même à l'usine, on ne me veut pas. Allez faire du ski et voter pour Sarko. Vanzette, il vous emmerde, cherchez dans le dico. Que la rage me reste, c'est tout ce que je souhaite. Malgré mon mal au cul, au broche et à la tête. Et merde, en plus de ça, j'ai des trous aux pieds. J'ai perdu mes illusions et tous mes papiers. J'ai plus de sous, de bijoux, de cailloux. Je manque de tout, je manque de tout. Je manque de tout, je manque de tout. J'ai même plus une Ève à me mettre sous la dent. Et je n'ai plus qu'un rêve, faire la guerre aux puissants.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Connaissez déjà le mot-clé du service souhaité? Vous pouvez le prononcer dès maintenant.
Info.
Pour actualiser information. Ce service vous permet d'obtenir des informations générales sur les droits et les aides. Vous êtes demandeur d'emploi. Composez les 7 chiffres de votre identifiant. Sinon, appuyez sur la touche étoile. Veuillez patienter, un conseiller va vous répondre.
Pôle emploi, bonjour.
Je vous appelais juste parce que j'ai reçu 2 convocations à 2 dates différentes.
Bah, c'est embêtant ça, dites-moi. Est-ce que vous avez un identifiant sur ces convocations?
Mon prénom et mon nom?
Non, c'est un numéro avec 7 chiffres et 1 lettre.
Alors c'est... Ah oui.
C'est en haut à gauche, généralement.
D'accord. 52
oui.
34 0B.
Barbara Laurent, c'est oui. ça votre nom hein. Celui qui compte, c'est le 22 mars à 10h. Hein.
D'accord, parce que j'avais peur d'être radiée avant même d'être inscrite.
Non, je ne vous radie pas, je vous garantis. Mais par contre, si vous n'êtes pas le 22 mars, là, vous aurez des ennuis. Bon, il y a une législation très rigoureuse qui nous est imposée.
Oui, bah j'ai l'impression un peu de paraître pour une fraudeuse.
Non. Il n'y a pas de fraude. Il y a très peu. C'est un peu un fantasme. En fait, il y a eu cette image qui a été donnée du chômeur payé à rien foutre, là, qui a rejailli un petit peu, ce qui fait que la réglementation a été très serrée. En plus, bon, ouais, je vous dirais pas que pour Pôle emploi, c'est plus important que vous soyez rayé des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, même si vous travaillez une heure par mois, vous n'êtes plus dans les chiffres du chômage. Hein. Vous ne faites plus partie des chiffres qui apparaissent à la télé, là. Hein. Quand on dit il y a tant de millions de chômeurs, vous n'en faites plus partie. Alors que vous n'avez travaillé qu'une heure.
Ça fait quand même réfléchir.
Eh bien, beaucoup de courage à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, petite scène normale, classique à Pôle emploi. On a évoqué à plusieurs reprises la duperie des chiffres du chômage. Comment on ne considère qu'une seule des catégories, la catégorie A, alors que il y a A, B, C, D, E, et que tout ça au total s'élève à 4 millions, 3 ou 4 millions 7 personnes, hommes, femmes, inscrites au Pôle emploi. Mais là, on va essayer avec Noëlle Burgi, qui est chercheuse sociologue au CNRS, une analyse un petit peu plus profonde de cette situation. Je le disais tout à l'heure, je l'évoquais, bien sûr que tout ça est présenté comme une fatalité, c'est la faute à la crise, c'est la formule, c'est la faute à la crise, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, quelque chose de naturel, comme un cyclone, une catastrophe qui nous aurait, un tremblement de terre qui nous aurait frappé, et face à quoi, ben, il faudrait de la solidarité, il faudrait attendre que ça se passe, que ça se répare, etc. Bien évidemment que non. Il y a dans toute cette histoire des considérations, je le disais, d'ordre politique, philosophique, idéologique, bien évidemment. Car qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois, vous pouvez écouter vos radios favorites toute la journée, c'est la concurrence. Ah oui, mais on peut pas, disent les représentants du patronat, les représentants du gouvernement, les membres du gouvernement, on ne peut pas, parce qu'il y a la concurrence. Il faut absolument que nous soyons concurrentiels, bien évidemment, si nous voulons retrouver la croissance, etc. C'est cette foutue concurrence qui fait que on en est là, bien sûr. Et évidemment, il y a un lien de cause à effet extrêmement direct entre la concurrence et la situation de ces millions de chômeurs dans notre pays, et des gens qui sont quand même plutôt bien payés. On est bien payés dans ce pays. Ah oui, ah, les salariés ont obtenu beaucoup de choses dans ce pays. Regardez, par rapport à d'autres pays pauvres dans le monde, on est plutôt gâtés. Donc, voilà. Voilà quoi ? Ben voilà une explication.
C'est le système qui est fait de telle manière que vous avez des temps d'indemnisation, une durée d'indemnisation qui sont réduites au fur et à mesure du temps qui passe, des années qui passent, des conventions d'assurance chômage et des réglementations. La tendance générale, en France mais ailleurs aussi, hein, est de réduire à la fois la qualité de la couverture indemnitaire, c'est-à-dire les montants que vous pouvez obtenir, la durée aussi de l'indemnisation, c'est-à-dire le temps pendant lequel vous allez pouvoir obtenir. Et ensuite, vous avez bien entendu d'autres raisons qui font que vous pouvez perdre votre assurance chômage ou votre indemnité, et qui sont liées à un système de plus en plus répressif à l'égard des chômeurs, de contrôle, de sanctions, et qui sont souvent arbitraires aussi. Vous avez cette espèce de machine gestionnaire qui se met en place, et d'ailleurs sous la houlette de l'Union européenne, qui dit...
Alors là, vous me citez justement, rappelez-moi.
Je suis en train de vous citer cette communication de la Commission de novembre 1998, moderniser les services publics de l'emploi pour soutenir la stratégie européenne pour l'emploi. Et ils disent, les services publics de l'emploi doivent s'adapter à un environnement en évolution rapide. Ces changements exigent une révision de leur rôle institutionnel, de leur méthode de travail, de leurs objectifs et de leurs buts. Alors, on se demande quel type de révision ça peut être, hein, du rôle, des buts, etc. Eh bien, le service, je les cite, le service au client est avant tout un service fourni aux employeurs. La finalité, c'est la concurrence. On fait baisser les charges salariales et les charges sociales pour pouvoir attirer des parts de marché. Un trop grand attachement au volet demandeur peut nuire aux services fournis aux employeurs. Donc, si vous vous occupez trop bien des chômeurs, eh bien, ça va nuire aux besoins des entreprises qui ne veulent plus de gens qualifiés, qui veulent des gens qui soient flexibles et qui soient jetables aussi, hein, facilement. Après, toujours sur le sens du travail, globalement, disent-ils, il est clair que les services publics de l'emploi doivent définir plus précisément quel est leur rôle propre et la valeur qu'ils ajoutent au marché. Ils sont mis en concurrence avec les services privés. Ils doivent s'adapter à la nouvelle réalité de marché mixte, c'est-à-dire public et privé. Hein, et étudier les moyens d'exploiter une telle constellation du marché de la manière la plus productive possible pour atteindre les objectifs publics. Alors, c'est quoi les objectifs publics? C'est de pauvres prestations pour les pauvres, en gros, et le moins possible, c'est-à-dire gérer les flux. Et finalement, le but du jeu, c'est pas l'orientation des personnes, c'est leur mise en règle. C'est leur fait qu'ils doivent accepter les règles du jeu, les nouvelles règles du jeu. Et pour les agents de Pôle emploi, le travail bien fait, celui qui consiste à véritablement le travail d'orientation professionnelle, n'est pas à l'ordre du jour. Pas du tout.
Et c'est là où justement la fusion de 2009, donc ANPE-ACEDIC, rentre dans cette logique. Enfin là, on
Elle
retrouve...
totalement dans cette logique. Elle rentre totalement dans cette logique.
Autre chantier annoncé, celui du traitement du chômage.
France 2, 2 octobre 2007.
Christine Lagarde, la ministre de l'économie, l'a annoncé aujourd'hui, la fusion entre l'UNEDIC et l'ANPE sera effective d'ici 6 mois à 1 an. Alors cela paraît technique, mais c'est le quotidien et l'encadrement des demandeurs d'emploi qui est en jeu. Ils auront désormais en face d'eux un seul interlocuteur.
Camille Godin arrive aux ACEDIC de Rennes pour chercher un emploi dans la restauration. Ce n'est que la première étape, l'inscription sur les listes de demandeurs d'emploi.
Vous dépendez donc de la ANPE Rennes Sud, et je vais vous remettre donc la convocation pour le lundi 8 octobre.
La deuxième étape, ce sera donc la ANPE, mais il faudra se rendre dans un autre bureau.
Pour la ANPE, on a aussi pareil, le dossier, l'endroit bien distinct, mais ça fait deux choses. Et donc si on pouvait lier les deux, ce serait parfait, ça éviterait toutes les complications.
La ANPE d'un côté, les ACEDIC de l'autre, c'est encore la réalité dans la moitié du réseau. Christine Lagarde veut y remédier en fusionnant les deux organismes. En additionnant ses forces, Christine Lagarde veut améliorer le suivi des chômeurs. Aujourd'hui, un agent doit s'occuper de 150 demandeurs d'emploi. L'objectif, après la fusion, est d'arriver à 30 chômeurs par agent.
Alors en fait, j'ai travaillé, donc je suis rentrée à la ANPE en 2001. Donc j'ai passé le concours, je l'ai obtenu, je suis rentrée donc en tant que conseiller adjoint.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 21 ans. Je me suis retrouvée face à de la pression qu'on sent de plus en plus. Entre 2001 et 2008, voire 2009, la pression sur les chiffres a augmenté constamment et régulièrement, mais surtout depuis qu'on a entendu parler de la fusion, si vous voulez, dès 2007.
Vous en avez combien de demandeurs d'emploi à voir tous les mois ?
Avant que je quitte l'ANPE, j'étais montée à 142 actifs et presque 200 en considérant les personnes qui étaient régulièrement au travail. Régulièrement, dans chaque agence que j'ai faite, on m'a dit « mais t'es pas là pour faire du social ».
Qui vous a dit ça ?
Mes chefs. On peut pas travailler, à mon sens, comme s'ils avaient pas de problème autour, comme s'ils avaient pas des enfants derrière à élever, besoin d'une voiture pour pouvoir se déplacer, besoin d'une certaine mobilité. Des gens qui ont des gros problèmes parce que justement le chômage a fait que leur couple va mal, qu'ils risquent le divorce, qu'ils risquent de se faire expulser de chez eux, etc. On m'a dit mais tout ça tu rentres pas dedans, c'est pas ton travail. Donc le conseiller ANPE doit aussi proposer les contrats aidés qui concernent le mieux l'entreprise. Donc de toute façon déjà il faut savoir que la fonction publique ne recrute jamais en contrat classique, ils prennent obligatoirement des contrats aidés. C'est des contrats précaires, c'est des contrats qui sont là pour aider l'employeur à embaucher la personne. Le problème, c'est que ces contrats aidés devraient être attribués plus spécifiquement, je pense, à des petites entreprises ou des entreprises qui ont des problèmes de financement. Et le gros souci, c'est qu'on accepte de faire des contrats aidés pour des grosses entreprises qui sont du type Altron ou Société Générale, des choses comme ça, des entreprises qui marchent très très bien. Pour vous raconter une anecdote, j'ai eu il y a 2 ans à peu près un employeur qui m'a téléphoné pour me dire qu'il avait besoin d'un ingénieur. Donc il voulait quelqu'un de diplômé, quelqu'un avec si possible au moins 5 ans d'expérience. Et il me proposait quand même de mettre la personne au SMIC horaire. Donc moi, je lui ai dit que je lui demandais simplement de réfléchir un peu et de me rappeler que, en l'état des choses, je pouvais pas prendre son offre d'emploi. Juste après, j'ai eu la pression de mon chef d'équipe qui m'a dit mais quelle horreur, tu viens de refuser une offre d'emploi, c'est pas possible, tu les rappelles immédiatement. Il a rappelé derrière moi, il a pris l'offre d'emploi. Donc à chaque en juin et en décembre, normalement, chaque conseiller a le droit à une prime en fonction du travail qu'il a effectué. Dans cette agence, j'ai jamais eu le droit à mes primes parce que je refusais catégoriquement de faire des choses qui étaient obligatoires et qui me semblaient pas du tout cohérentes avec mon travail de chargé d'insertion. La plupart des employeurs qui nous appellent, c'est pour des contrats précaires, c'est pour des petits contrats, c'est pour prendre des gens, si possible, justement, qui rentrent dans le cadre des contrats aidés. C'est avec des salaires rédhibitoires qui donneraient même pas envie à quelqu'un qui est au chômage d'aller travailler parce qu'il risque de toucher moins en travaillant que ce qu'il a le droit aux ACEDIC. Des boulots de merde, voilà.
Ça va faire 28 ans maintenant que je travaille pour Pôle emploi, anciennement ex-ANPE. Même ne serait-ce que le fait d'évoquer des cas de radiation abusive ou injustifiée ou dégueulasse, eh ben, ça me fait quelque chose et ça me met très mal à l'aise. Mais j'ai malheureusement une direction au-dessus de moi qui a toute autorité sur moi et que si elle m'impose de faire la radiation, je suis obligée de la faire. Ça m'est déjà arrivé de refuser d'appliquer une décision. Il y a eu plusieurs cas. Cette personne était à mobilité réduite, hein, donc avait des problèmes de station debout pénibles et qu'on radiait pour refus d'emploi parce qu'elle avait refusé la cueillette des fruits en saison. Médicalement, elle ne pouvait pas, donc on ne pouvait pas lui proposer ce type d'offre d'emploi et encore moins la radier pour avoir refusé cette offre-là, alors que physiquement, elle ne peut pas le faire. Là, j'ai refusé de faire la radiation, oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Rien. Rien. C'est mon directeur qui l'a faite à ma place.
J'ai été embauché donc par Pôle emploi en qualité de conseiller à l'emploi en CDD donc pour une période en fait de 6 mois qui était renouvelable une fois. Et donc le contrat s'est terminé le 28 février 2010. Donc j'étais moi-même demandeur d'emploi depuis 2 à 3 ans. Auparavant, j'étais en fait en position de directeur de production. Donc j'avais en fait une centaine de personnes à manager au quotidien. C'était une grande entreprise de l'agroalimentaire. Quand j'ai postulé justement pour Pôle emploi, en fait, j'étais en fin de droit, j'étais en ce qu'on appelle l'ASS, donc l'allocation spécifique de solidarité. Donc je sortais d'une période de plus de 20 ans en fait d'activité professionnelle.
Vous n'aviez pas connu le chômage ?
Non, pas du tout. J'avais 48 ans en fait.
Et vous aviez un salaire de combien à ce moment-là quand vous étiez dans cette boîte agroalimentaire ?
Ah, j'étais en mensuel, j'étais à 3000 euros.
Vous êtes passé à 1500 euros?
Voilà, tout à fait. Dans un contexte difficile en termes de recherche d'emploi, parce que pas d'emploi dans l'agroalimentaire. Et puis le temps passe, et puis au bout d'un moment, l'indemnité prend fin et vous vous retrouvez en allocation spécifique de solidarité. Et ça, c'est équivalent aujourd'hui à en gros 500 euros par mois. C'est plus que tomber de haut. Ça remet en cause, si vous voulez, tout ce que vous avez fait depuis 20 ans. Donc vous vous sentez non seulement inutile, mais en plus vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire de travers pour que ça vous arrive sur le coin du nez. Donc c'est vraiment une situation, si vous voulez, hyper hyper pénible à vivre. Alors le salaire, si vous voulez, de base était de 1580 euros par mois brut. Et donc je démarre en fait l'activité conseiller à l'emploi le 1er septembre. On a eu 4 jours de formation donc concernant le placement. 2 jours de formation sur l'indemnisation, donc la partie, je dirais, ex-ACEDIC. En fait, on vous confie, je dirais, un certain nombre de demandeurs d'emploi, je dirais, à suivre. Et vous commencez, en fait, les entretiens individuels. Et là, en gros, on va dire ça comme ça, en gros, vous vous débrouillez. Tout à fait honnêtement, quand j'ai découvert la façon dont on mettait en place, en fait, un conseiller à l'emploi, ça m'a beaucoup éclairé sur mon propre traitement à moi quand j'étais de l'autre côté.
C'est-à-dire ?
J'ai mieux compris pourquoi on pouvait pas me répondre. Et j'ai mieux compris aussi pourquoi on mettait autant de temps, je dirais, à me retrouver en fait un travail.
Pour actualiser votre situation mensuelle.
Voilà comment on devient radiateur. Radiateur, c'est comme ça que les agents de Pôle emploi s'appellent très souvent entre eux, ceux qui radient, qui doivent radier, on l'évoquait lundi, sinon alors évidemment c'est pas dit tout à fait directement comme ça, mais il faut comprendre que c'est ça qu'il faut faire, sinon il y a cette fameuse prime que une auditrice évoquait sur le répondeur, qui risque de sauter ou d'être moins importante. Et puis il y a aussi des primes collectives, des primes d'équipe. Alors évidemment, celui qui serait un petit peu trop tendre ou un petit peu négligent, ferait que l'équipe n'aurait pas. Donc l'équipe pousse vieille technique de management pas très fraîche.
Quand le demandeur d'emploi est en formation, il est en catégorie, ce que l'on appelle la catégorie 4, et donc il n'est plus demandeur d'emploi, il est stagiaire de la formation continue.
D'accord.
Donc, il n'apparaît pas au niveau des statistiques officielles sorties notamment tous les mois, quand on annonce 2,5 millions, 2,8 millions chômeurs déclarés. Il est évident aujourd'hui que la consigne est donnée de mettre les gens en formation le plus vite possible pour qu'ils soient justement stagiaires de la formation continue et pas demandeurs d'emploi.
Vous, c'était les consignes que vous aviez ?
Ah oui, clairement, oui. Clairement, oui. C'est une consigne qui émane directement, oui, du responsable d'équipe, en fait. Mais qui lui-même a eu, je dirais, des consignes de sa propre hiérarchie. Puisque, en fait, il y a des tableaux, si vous voulez, des tableaux de bord qui existent, et qui mesurent, en fait, le nombre de demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'une formation. Ça va loin, ayant bénéficié d'une formation de plus de 35 heures, de moins de 35 heures, pour quel montant ? Quel est le financeur? C'est suivi de très près, l'aspect formation. On peut envoyer en formation des gens, et on peut les envoyer sur une formation, à la limite, quasiment qu'ils n'ont pas demandé, et qui sera pas peut-être d'une très grande utilité pour le retour à l'emploi.
C'est-à-dire, vous deviez envoyer un demandeur d'emploi dans une formation qui n'était pas très utile pour lui?
Oui, mais il est en formation. C'est le cas, c'est au quotidien. Je veux dire, c'est même pas un cas isolé, ça c'est au quotidien. La déontologie veut qu'effectivement il soit affiché partout, qu'on lui demande son avis. Quelqu'un, si vous voulez, qui se retrouve dans une situation de faiblesse, vous l'orientez vers ce que vous voulez obtenir, et en règle générale, vous obtenez ce que vous voulez obtenir. On lui dit, écoutez, vous avez un emploi de cariste qui vous tend les mains, il faut que vous passiez la licence, et on lui fait passer la licence sans qu'il ait forcément le choix de dire non.
Et s'il dit non, il peut être radié, c'est ça ? Enfin, on peut être.
Alors après, ce qui peut devenir très délicat, c'est qu'effectivement, il refuse une formation, donc ça veut dire qu'il refuse l'aide, je dirais, de Pôle emploi. Donc il risque effectivement d'avoir des ennuis, en plus. Et vous avez des ennuis, surtout des ennuis financiers, ce qui est plus grave.
Et est-ce que vous, ça vous est arrivé de ne pas demander l'avis du demandeur d'emploi pour la formation ?
Honnêtement, oui. Ça m'est arrivé d'agir pour faire en sorte que le demandeur d'emploi accepte. Et où j'étais persuadé, si vous voulez, que cette formation-là ne lui serait pas d'une grande utilité, parce qu'en fait, il n'avait pas franchement envie de faire ce métier-là.
Et alors, comment ça se fait ? Pourquoi vous avez accepté de faire ça, justement ?
Pris dans la machinerie, de la machinerie qui va bien. Pris, si vous voulez, dans le contexte, et vous finissez par le faire sans vous en rendre compte.
Donc la fin de contrat, vous m'avez dit, c'était le 28 février ?
Le 28 février, oui. Enfin, moi, j'ai été personnellement informé officiellement que mon contrat n'était pas renouvelé le 26 février au matin. J'étais obligé de retourner m'inscrire et de refaire le parcours classique du demandeur d'emploi.
En disant ?
Qui vient se réinscrire.
Qui vient se réinscrire en disant que vous étiez licencié du Pôle emploi.
Voilà, tout à fait, oui. Tout à fait. Finalement, on se dit, est-ce qu'on n'a pas été sorti des statistiques pendant 6 mois ? finalement, on leur a rendu un petit peu service quand même pendant 6 mois, mais au bout du compte et au bout du bout, 6 mois après, on se retrouve dans la même situation.
Parce que
mais
vous...
pendant 6 mois, on n'a pas fait partie, je dirais, des chiffres officiels.
Pendant 6 mois, vous vous êtes sorti des chiffres officiels, Dominique.
Forcément, forcément.
Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui somme nous moins 0,05, indice où allons-nous 1,5, indice d'où venons-nous 4,0, indice mystère et trou noir moins 0,9, indice individuel 29,0, sens de la vie 4,8, confiance en soi 0,6, température du corps 37,25, température extérieure 21 degrés. Jouissance des biens matériels 0,8. Fréquentation des toilettes 3,0. Nombre de mots employés 182. Poésie effective réelle 11,1. Taux de culpabilité moins 14,3. État du réel 3,1. Sensation du temps qui passe 4,8. Échiffrement du réel 2,7. État du possible 0,8. Demande affective effective 1,5, offre affective effective 1,3, difficulté surmontée 1,7, degré de partage 0,2, indice amour 2,0, abstraction 0,02, enthousiasme 0,8, taux de culpabilité 1,0, sécurité 0,81, absence.
Décembre dernier, 3400 chômeurs inscrits dans cette agence du Pôle emploi de la région de Grenoble.
France 3, 21 juillet 2009.
Aujourd'hui, ils sont plus de 6800. Résultat, comme dans beaucoup d'agences locales, les personnels sont débordés et ne peuvent rendre les services attendus. Pour faire face à cette augmentation considérable du nombre de chômeurs, Pôle emploi va confier l'accompagnement de 320 000 d'entre eux à des entreprises privées. Ce recours à la sous-traitance, que les syndicats n'apprécient guère, est indispensable pour les pouvoirs publics.
Les opérateurs privés de placement nous permettent de compléter notre offre de service,
Christian
de
Charles.
Prendre en charge pendant quelques mois des demandeurs d'emploi qui n'auraient pas dû prendre en charge de manière efficace. Et puis aussi, je pense qu'un peu de concurrence, un peu de stimulation, même pour les agents de Pôle emploi qui sont très efficaces, c'est plutôt une bonne chose.
Le coût de cette sous-traitance est estimé à 200 millions d'euros chaque année.
Bonjour. Non, pas du tout, je venais pour un renseignement en fait.
Oui.
Voilà, parce que je suis au Pôle emploi, je suis à la recherche d'un emploi.
Oui.
Et je voulais savoir comment on faisait pour passer par vous. Parce que vous êtes une voie de reclassement.
Oui, oui, on est prestataire, mais c'est Pôle emploi qui décide. C'est pas nous qui décidons. C'est Pôle emploi qui vous envoie chez un prestataire, le prestataire de son choix. Donc effectivement, comme vous le dites, nous sommes organisme de reclassement, c'est un grand mot.
Pourquoi un grand mot?
Oui, parce que si ce serait si simple, s'il suffisait de reclasser les gens. Bon, oui, vous êtes là, on va vous reclasser là. Vous n'êtes pas tout à fait ça.
C'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué, quand même.
Quand on va là-bas, il n'y a que le 39-49, donc c'est pour ça aussi que... Quoi, il vaut mieux rester là-bas?
Je peux pas vous dire le mieux ce que c'est. J'en sais rien. Dans le contexte actuel, c'est difficile. Voilà.
Vous n'êtes pas plus efficace, forcément, enfin...
Bien sûr qu'en tant que société privée, on doit le dire qu'on est plus efficace, mais la situation ne va pas s'améliorer. Et puis il y a des métiers, je ne sais pas quel est votre corps de métier, il y a des métiers où c'est une catastrophe. Mais on ne peut pas faire des miracles. Il y a un marché qui est très difficile.
Donc c'est pas si évident, ça sert à rien. Pour l'instant, je demande à quitter Pôle emploi pour venir vers vous.
Non, c'est pas si simple, c'est discuter les ans avec votre référent, c'est mieux. Il ne faut pas taper du sucre sur des gens qui font un travail qui est décrié, mais qui, quand même, est un bon travail. Faut pas croire, c'est quand même un bon travail, donc en aucun cas...
En aucun cas, je ne quitte pas l'emploi.
Voilà. Désolé de pouvoir en dire plus.
Non, mais c'est intéressant.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, monsieur.
Bonjour.
emplois à votre service. Pour toute information, notre service d'accueil est actuellement fermé.
Très souvent, au cours de ce reportage, on a entendu « merci, merci de rien » de la part des agents divers et variés. Il y a des moments où l'expression « de rien » est tout à fait appropriée. « Merci, de rien », effectivement. Beaucoup de rien là-dedans, sauf qu'il s'agit quand même de l'essentiel. C'est le cas de le dire, de nos vies, de nos rôles, de notre rôle, qui est évidemment le travail. On retrouve Laurence, qui nous explique en quoi nous sommes ou non des fraudeurs potentiels.
Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Pôle emploi ?
Je suis entrée en 1982.
Donc ça fait 28 ans que vous travaillez pour Pôle emploi et vous étiez de quel côté ? Puisque maintenant, depuis la fusion, il y a NPE assez dit que mêlée.
Ex-ANPE. Je travaillais à la NPE.
Donc pour le placement des demandeurs d'emploi ?
C'est ça. Donc il y avait quand même des convictions, c'est-à-dire je suis pas rentrée à la NPE tout à fait par hasard. Je suis rentrée à la NPE parce que effectivement j'avais envie effectivement de venir d'être dans un réel service public et rendre un service correct aux demandeurs d'emploi. Pour moi aujourd'hui le voleur, le fraudeur, c'est grave ce que je dis et je pense qu'effectivement la fraude c'est Pôle emploi qui la commet vis-à-vis de d'un certain nombre de demandeurs d'emploi parce que il ne les inscrit pas comme il devrait les inscrire, parce qu'il suspend des droits Pôle emploi de manière illégale, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont suspects à Pôle emploi sous prétexte de lutte contre la fraude. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas indemnisés sous prétexte qu'ils appartiennent à une catégorie ou à une famille de demandeurs d'emploi ciblés. C'est-à-dire qu'on a réfléchi en amont à quelles sont les catégories potentiellement fraudables. Et du coup, il y a des contrôles qui sont faits sur ces personnes-là de manière beaucoup plus intense, importante. Par exemple, moi, j'accompagnais dans le cadre de la CRP, Convention de reclassement personnalisé, donc dispositif pour ces personnes licenciées économiques. Un brave monsieur qui avait une carte de sécurité sociale provisoire. Donc ce monsieur, avec sa carte de sécurité sociale provisoire, à un moment donné a reçu un courrier comme quoi on lui suspendait son indemnisation tant qu'il n'aurait pas de carte de sécu définitive. Moi j'accompagne cette personne à la recherche d'un emploi. Ce monsieur d'un seul coup il se retrouve avec plus aucun revenu. Il a une femme et des enfants, mais il n'a plus de revenus. Bon, moi, j'appelle la Sécurité sociale. La Sécurité sociale dit, pour nous, elle est valable, cette carte de sécu provisoire. Donc, je comprends pas pourquoi, pour Pôle emploi, elle ne l'est pas. Fort de ces informations-là, j'ai questionné ma direction. Et là, on m'a expliqué que c'était la gestion des doutes. En fait, il y a une gestion des doutes qui est faite, c'est-à-dire que régulièrement, donc c'est un service spécial, puisqu'il y a un service de prévention des fraudes à Pôle emploi, ils font des extractions de fichiers, donc par certains critères. Ils recherchent par exemple toutes les personnes qui ont des cartes de sécurité sociale provisoire, et à un moment donné, ils les suspendent tous, ils leur envoient un courrier en leur disant « pas de carte de sécurité sociale définitive, vous n'êtes pas indemnisé ».
Mais c'est que sur des doutes.
Et c'est sur des doutes, c'est-à-dire que tout est permis. Tout est permis. C'est là où vous découvrez que vous êtes dans un monde à part, où effectivement tout chômeur est peut-être potentiellement un fraudeur, et qu'effectivement c'est à lui d'apporter la preuve qu'il ne l'est pas. Moi j'ai participé par exemple à un recrutement dans le secteur de l'insertion en plus, c'était Auchan pour ne pas les citer, qui voulait faire du social en recrutant des gens en difficulté, mais en même temps qui disait que de toute façon, eux ce qui les intéressait c'était d'avoir des gens qui ont faim. Parce que quand les gens ont faim, ma foi, ils sont d'autant plus volontaires pour accepter les conditions qu'on leur propose. On dit qu'il y a des demandeurs d'emploi inemployables. Moi, je dirais qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas des offres d'emploi. Voilà. Et on devrait inverser, là aussi, de temps en temps, les choses. C'est pas les demandeurs d'emploi qui sont inemployables. Il y a eu une période où ça n'existait pas, des demandeurs d'emploi inemployables. Tout le monde avait sa place. Et ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi inemployables. Pourquoi ? Parce que il y a sur le marché de l'emploi des gens qui, effectivement, ont faim. Et voilà, et je pense qu'Auchan l'a compris, et un certain nombre de gens l'ont compris.
Merci à toutes et à tous. C'était L'Avenir radié, un reportage de Pascal Pascariello. Merci à Fanny, Laurence, Rosemarie et Dominique. Merci à Noël Burgi. Je rappelle le titre du livre « Confession d'une taupe à Pôle emploi » d'Aude Rossignol et Gaël Guzelin, qui est paru le 10 mars chez Kalman Lévy. Et puis tout à fait autre chose, on recherche un avis de recherche. On recherche un des membres du groupe Clan Actuel. Clan Actuel, c'était un groupe sur lequel nous avions fait un reportage en 1991 dans un reportage aux Framboisins, au quartier des Framboisins à Saint-Denis. Et le leader s'appelle David Gone. Alors, je sais pas si vous le connaissez, peut-être qu'il nous écoute. On serait absolument fou, heureux de le retrouver. Si vous avez des renseignements, daniel.mermet@radiofrance.com, c'est le mail de la base jésuite, daniel.mermet@radiofrance.com. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pourrez découvrir des secrets absolument scandaleux et époustouflants, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Vincent Godard et Gaël Bravouzek, Koye Nguyen et Raphaël Moutier ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot, et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson, Arthur l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Mais papa, regarde un peu devant toi, il appuie sur le champignon.
Un concentré technologique qui commande pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonde droit sur une grosse toile d'araignée.
Après les films, l'attraction. Découvrez Arthur l'aventure 4D au Futuroscope. Une réalisation du département de la Vienne. Futuroscope, votre prochaine destination séjour. Futuroscope. Retrouvez les tarifs et les promotions sur futuroscope.com.
Mars 2010, Stéphane rencontre Chloé. Chloé est douce, Chloé est belle, mais Chloé habite vraiment loin.
Avignon.
Quoi ? Avignon ? Ben oui, Avignon. Alors demain, Chloé sera loin. Mais heureusement...
Jusqu'au 31 mars, les billets TGV Proms sont à 25 euros en seconde classe et 35 euros en première pour des voyages en mai. Offre soumise à condition, également disponible sur Théos et Lunéa.
Avec TGV, Stéphane pourra donc rejoindre sa Chloé à...
Avignon.
Et voilà.
SNCF.
MAF Assurance, bonjour.
Bonjour, ça dépend de vous, Miss MAF. Votre bien-aimé directeur m'a laissé entendre que si j'assure mon auto et ma moto à la MAF, je peux avoir moins 40% sur ma cotisation moto.
Moins 40%, je vous le confirme.
Sûr ? Parce que j'aimerais bien l'avoir un jour, votre directeur, vous comprenez ?
Vous ne pouvez pas avoir le directeur, mais consolez-vous, vous pouvez avoir les moins 40% sur votre assurance moto.
Oui, c'est bien aussi, Miss MAF. Très consolant.
C'est la MAF.
Condition de l'offre au 0800 517 566. Appel gratuit.
16h et presque une minute sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis, les infos, Angélique Bouin. Salut.
Un professeur du collège Albert Schweitzer de Créteil est à l'hôpital après avoir été agressé par une élève de 15 ans armée d'une barre de fer. Il souffre de plusieurs blessures, mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Un élève qui a tenté de s'interposer est également légèrement blessé et hospitalisé. La jeune fille avait été exclue du collège pour une semaine. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait voulu se venger de son professeur. Dans le Val-d'Oise, cette fois, des enseignants ont cessé le travail depuis hier en raison d'une intrusion dans leur établissement. Ils ont fait valoir leur droit de retrait. Le récit de Julie-Marie Lecomte.
Le premier acte se déroule à l'extérieur du lycée vers 17h. Une première bagarre oppose un garçon de 17 ans à un adulte. L'adolescent se retrouve la bouche en sang. Très vite, la rumeur se propage. Son agresseur serait un prof. Un groupe de jeunes qui traînent devant l'établissement décide alors qu'il faut se venger. Capuche sur la tête et pour certains foulards sur le nez, ils escaladent les grilles d'entrée. L'un d'eux jette une poubelle contre une porte en verre. On se bouscule. Les enseignants qui sont là tentent de repousser les assaillants. Ils sont bousculés. Un prof de gym est tabassé. Au final, l'intrusion n'a duré que quelques minutes. Les dégâts matériels sont minimes. Selon les gendarmes, l'adulte impliqué dans la première bagarre n'est pas un enseignant. Les profs sont sidérés de constater que personne ne semble avoir douté un instant l'instant que l'un d'entre eux était capable de s'en prendre à un adolescent. À Jouy-le-Moutier, Julie-Marie Lecomte, France Bleu pour France Inter.
Après la défaite des régionales, Nicolas Sarkozy dit vouloir garder le cap des réformes, mais il tente aussi de rassurer sa majorité. Dans sa déclaration de la mi-journée, le chef de l'État a confirmé le report de la taxe carbone. Il se dit déterminé à mener la réforme des retraites dans les 6 mois, mais sans passage en force. Il justifie ses orientations en faveur de la compétitivité et du travail et n'augmentera pas la fiscalité. Il va enfin tout faire pour protéger les agriculteurs dont il semble avoir mesuré le désarroi. Il se dit même prêt à se fâcher avec Bruxelles pour défendre la politique agricole commune. Seul moment d'autocritique, Nicolas Sarkozy a concédé que sa politique avait bousculé les habitudes et pu faire naître des incertitudes, je cite, parfois des angoisses. Météo France tire les leçons de la tempête Xynthia. À compter de 2011, les prévisionnistes publieront des cartes de vigilance côtière. Avant l'arrivée de cette tempête meurtrière, ils avaient bien anticipé la montée du niveau de la mer à 1,5 m au-dessus des valeurs habituelles, mais leur alerte n'avait pas été suffisamment relayée, faute d'outils adéquats. Les prix dans le logement ancien devraient baisser de 3% en moyenne en France en 2010 par rapport à 2009. Mais attention, cette hausse recouvre des réalités bien différentes. Dans les centres-villes, les prix vont continuer à monter de 1 à 3% selon une étude publiée par le Crédit Foncier. Mais des baisses de 5 à 10% sont attendues, notamment dans les périphéries. Et puis le prix littéraire France Culture Télérama récompense Elisabeth Filol pour son premier roman, La Centrale, livre publié chez P.O.
Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain, jeudi à 11h, Stéphane Bern recevra Akhenaton et Claude Bureau. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter. La différence.
16h04, très bon après-midi à tous. Restez avec nous. Nous sommes avec Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pour commencer, Chopin, bien sûr, on sait que c'est son année, tout comme l'année de Schumann, qu'on n'oublie pas non plus, on va pouvoir le prouver tout à l'heure. Donc, un disque récent avec une jeune pianiste qui a eu un peu de mal au départ à se faire entendre de ses parents déjà, parce que sa mère ne voulait pas qu'elle joue de cet instrument. Le piano qui trônait dans le salon, Alice Sarah Haute à 3 ans trépignait déjà, et sa maman avait entouré le piano d'une palissade pour la dissuader. Mais bon, l'obstination a gagné, heureusement, et la jeune Alice a commencé à prendre des leçons. Ses parents, finalement, ont cédé. Et elle dit « Je me sens profondément attachée aux valses de Chopin. Elle reflète toute la courbe de sa carrière de compositeur. Elle reflète également sa personnalité déchirée entre la Pologne et la France et son éternelle quête d'identité. Tiens, tiens, je me sens partagée de la même manière entre le Japon et l'Allemagne. Il faut dire que elle est entre ses parents de deux nationalités, mère japonaise et père allemand. Et c'est seulement dans la musique que je me sens vraiment chez moi. Troisième valse de l'opus 64 de Frédéric Chopin. Thank you. Frédéric Chopin, troisième valse opus 64, par la jeune Alice Sarah Ott, pianiste de 22 ans. Le disque est publié chez Deutsche Grammophon. Il y a des femmes qui ont des destins beaucoup plus difficiles. Le fait de vouloir jouer du piano contre l'avis de sa mère, c'était certes une petite difficulté, mais enfin ça s'est résolu évidemment dans l'amour de ses parents. Et d'autres ont eu des combats beaucoup plus durs. Elles se nomment Phèdre, Armide, Médée, Didon, Ophélie. Et c'est le thème d'un grand